Jésus est juif. Il se manifeste parmi les apôtres qui sont juifs, dans ce peuple qui est juif, un peuple qui a eu une expérience extraordinaire depuis un millier d'années. Mais oui, ce peuple fait l'expérience que Dieu est vivant, qu'il est vivant, qu'il est fidèle, qu'il est là, qu'il accompagne ce peuple comme encore aujourd'hui, après Auschwitz, que ce peuple soit encore vivant et plus encore qu'il ait trouvé une terre à partager, promise pour en vivre, c'est un signe palpable de la fidélité de Dieu. Dieu est vivant. Ce peuple en est témoin depuis bien avant Jésus. Un peuple qui est témoin que Dieu est vivant, qu'il n'est pas mort, que Dieu aime, qu'il noue une alliance particulière dans un amour qui est fidèle, un amour qui n'abandonne jamais, un amour plus tendre que celui d'une mère. Ça, les apôtres en vivaient, ils le savaient. Ils le savaient que Dieu est vivant. Ils le savaient. Ils en faisaient une expérience vive. Mais nous aussi, même si nous ne sommes que des pièces rapportées, parce que nous sommes des païens, les nations, nous sommes des pièces rapportées, intégrées dans cette alliance avec ce peuple, d'une alliance irrévocable. Mais nous aussi, nous nous apercevons bien avant Jésus, qu'il y a un mystère de vie qui nous précède. Quand on regarde, même aujourd'hui, il suffit d'aller un peu en montagne pour éviter la pollution lumineuse de la ville. Quand on regarde toutes ces étoiles, on se dit. Et quand on regarde les clichés apportés par la NASA encore avant-hier, de ces merveilles dans l'univers, on se dit, mais qui peut soutenir de sa vie cette vie? Il y a une vie. On ne sait pas sous quelle forme encore. On va découvrir quand même. On va être aussi émerveillé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On découvre cette matière, ces électrons, ces atomes qui font ce qu'ils veulent et ces autres particules élémentaires dans l'univers et qui font aussi, qui montrent qu'il y a de l'antimatière, etc. Ça dépasse complètement tout ce qu'on pourrait entendre à partir de nos conceptions de la vie ici, sur cette petite terre de laquelle nous avons du mal à décoller. On est un peu des fourmis dans l'univers. C'est dire beaucoup de dire que nous sommes des fourmis. Il y a un mystère de vie. Et cette vie, nous en avons l'intuition avec beaucoup de peuples de la terre. Il n'y a que la vie qui peut être à l'origine, la vie avec grand V qui peut être à l'origine de ces petites vies très créatives. Ça, oui, on le savait. On le sentait. On le sentait. Mais Saint Jean nous dit, après l'expérience de la résurrection de Pâques, que la vie, grand V, avec majuscule, la vie qui précède l'univers, la vie à l'origine de l'univers, la vie qui soutient l'univers, la vie qui soutient nos vies, cette vie mystérieuse qui n'est pas de l'ordre des atomes, mais dont on peut avoir l'intuition qu'elle est de l'ordre de la relation, qui est plus belle, plus forte, qui précède toute vie. Eh mais oui, même nos parents, s'ils ne s'étaient pas aimés. C'est l'amour qui est à l'origine de la procréation en général. C'est parce qu'il y a de l'amour, c'est parce qu'il y a une relation. La relation précède les atomes. Elle précède les atomes. Ça, on pouvait y arriver. Beaucoup de peuples de la terre y sont arrivés. Mais Saint Jean dit la vie en abondance, la vie à l'origine de toute vie, qui précède tout l'univers, s'est manifestée à nous. Il a donné des signes tangibles, pas seulement le jour de sa résurrection, mais bien avant, des signes tangibles qu'il était la vie et qu'il nous apportait la vie, qu'il était la vie en plénitude, qu'il vivait de sa relation avec le Père dans l'Esprit et qu'il nous a mis là-dedans. Il nous a embarqués dans cette relation très vivante. Il était la vie et nous en avons, ceux qui l'approchaient, ceux dont il s'approchait, ils retrouvaient la vie. Les lépreux, les boiteux, les malades retrouvaient la vie. Il donnait des signes, des signaux qu'il est la vie en abondance. Mais voilà, il nous disait des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il nous disait, il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il donne sa vie en rançon pour tous, pour ressusciter. Ça, on ne comprenait pas. On ne savait pas où il voulait nous emmener. Et nous non plus. Nous ne savons toujours pas jusqu'où il veut nous emmener. On sait, on en a la foi, qu'il est la vie en abondance, qu'il nous entraîne dans ce tourbillon de vie à travers le baptême. Oui, il nous entraîne là-dedans, oui. Mais nous ne savons pas, dit saint Jean dans la première lecture, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Tellement c'est riche et hors de notre entendement. Tellement c'est riche. Alors quand nous nous accrochons à lui durant notre vie, jour après jour, quand on essaye d'entrer dans ses relations avec le Père, dans la confiance, alors on se rend compte, avec détachement aussi des autres choses, en donnant de l'importance à ce qui le mérite, on se rend bien compte qu'il y a des choses nouvelles de notre vie qui s'ouvrent à nous. Il y a des pores de notre vie, même physique, qui s'ouvrent. Il y a des horizons nouveaux, des portes de tir, des fenêtres de tir, que nous ne voyons pas, qui s'ouvrent à nous. Il y a une créativité nouvelle qui s'ouvre à nous. Il donne des idées, il apporte la vie. Il apporte vraiment la vie. Et il n'avait pas besoin de ressusciter, on sentait qu'il était la vie. Mais là, quand les femmes s'approchent du sépulcre, qu'il n'y a plus personne dedans, quand Jean, qui court plus vite que Pierre, arrive et voit les bandelettes et tout rouler, il se dit, c'est passé quelque chose. Et Pierre, plus tardif, comme beaucoup de nos contemporains, on n'est pas tous aussi lièvres que Jean, mais il arrive, il voit, il se dit, il s'est passé quelque chose. Et puis, il va vraiment manger avec eux, manger et boire. On se dit, mais il n'aurait pas pu faire autrement. Et puis, dans notre ère numérique, comment est-ce qu'il serait manifesté ? Peut-être sur une vidéo YouTube, live, en live, directement. Non, il a préféré, il dit, la vie, c'est un partage, c'est des relations. La vie, c'est un repas, ce sont des relations, oui, mais bien dans la chair. Concrète, c'est du vrai, c'est du solide. Et ma résurrection, c'est pas une résurrection de zombies, c'est pas une résurrection pour des gens qui sont dans leur tête. Non, c'est une résurrection à travers des relations nouvelles et renouvelées qui va vous apporter une vie concrète. Mais oui, dans la chair, oui, dans le corps qui va apporter une nouvelle créativité. Quand on voit toutes ces fleurs, on se dit, il y a bien une équipe de la paroisse qui s'est laissée toucher par la vie de Jésus. Il s'est passé quelque chose. Il y a une contagion là. Il y a quelque chose. Mais c'est concret. C'est une floraison. Il se passe quelque chose. Bien, quand on rencontre le ressuscité, comme Pierre et Jean, un peu penaud, un peu tardif, un peu lourd, mais quand on le rencontre, alors c'est un repas. C'est pas par hasard qu'il veut l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi ? C'est un repas. Un repas d'amis où il nous convie, il nous invite et on se partage une nourriture. Alors lui, il va très loin, au-delà de tout entendement, au-delà des belles spécialités que l'on a à Marseille et dans la région. Lui, il nous dit, ma spécialité, c'est de vous donner tout, de vous donner toute ma vie, tout mon corps, tout mon être, mon sang. Allez, partagez-le, vivez-en, ça vous fera vivre, c'est l'Eucharistie. C'est de l'ordre d'une relation. Mon Père se manifestera à lui. Si vous m'aimez, mon Père se manifestera à vous. Et alors, il vous invitera à un festin, en tête à tête. et vous sentirez, vous percevrez cette vie qui vous fait vivre cette sève vitale. Vous deviendrez comme cette vigne qui était mourante, et avec cette sève nouvelle, vous allez non seulement devenir des branchages de printemps, mais vous allez porter du fruit, et vous allez porter du fruit en abondance. Cette vie qui précède l'univers, cette vie qui commençait à se manifester dans la création, cette vie qui commençait à se manifester aux disciples, il nous apporte la vie. Cette vie s'est manifestée ce jour de Pâques. Oui, il s'est manifesté. Il a donné des signes tangibles qu'il est vivant. Ils étaient encore dans leur tête et dans leurs problèmes, parce que souvent on a des problèmes, on ne sait pas comment en sortir. On se dit, mais là, on est enfermé dans un destin, et puis je vais continuer ma vie ou ma mort jusqu'à la mort, et puis voilà, et il n'y aura plus rien, j'ai plus rien à attendre de cette vie. Combien de non-contemporains pensent comme cela? Combien? Et les disciples se trouvaient comme ça, enfermés dans leur cénacle. C'est tangible, c'est des murs, évidemment. La porte est fermée, mais oui, parce qu'on a peur de quoi? On a peur des contemporains, là, qui vont peut-être nous mettre en prison aussi, qui vont peut-être nous crucifier aussi. Et désormais, qu'est-ce qu'on fait? On est cloué à notre destin, et on n'ose même plus sortir dans les rues. C'était quand même les disciples, après la mort de Jésus. On est souvent dans ces situations fermées, où on ne sait plus quoi faire, et on se dit, allez. Dans quelques années, c'est la mort, et puis si on peut la précipiter, tant mieux, parce que on n'y voit plus rien, il n'y a plus d'espoir. On est souvent comme ses disciples, et Jésus ne nous culpabilise pas, c'est pas le genre. Qu'est-ce qui fait alors celui qui porte la vie en abondance? Eh bien, alors que les portes sont fermées, il se manifeste à l'intérieur du cénacle. Alors les disciples qui ont une belle part de raison, et les femmes aussi, quand elles voient que le cadavre n'est plus là, elles disent, ils ont pris le cadavre. Elles sont quand même, ils gardent toute leur raison scientifique, leur rationalité. Ah oui, et là quand ils le voient au milieu d'eux, ils disent, non mais ça va, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, on n'avait plus de trucs là pour dormir. Et là, maintenant, on a même des hallucinations. C'est grave. C'est grave. Ils le prennent pour un fantôme. Comme en Angleterre, où ils n'ont rien d'autre à penser, parce qu'il y a de la brume tout le temps. C'est pas Marseille. Mais voilà, et ils se manifestent. La vie se manifeste à eux. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Touchez-moi, touchez mes plaies. C'est bien celui qui est mort, qui est vivant. C'est celui qui vous a aimé, qui continue à vous aimer. Est-ce que vous avez un peu de poisson? Est-ce que vous avez un peu de pain? Allez, on va manger. Et les disciples apportent ce qu'ils ont et ils font un festin ensemble. La vie s'est manifestée, la vie qui précédait l'univers, la vie qui soutient l'univers, la vie qui aimait déjà Israël comme peuple, cette vie se manifeste sur un visage. Mais un visage concret, un visage qui dit aux disciples, mais ma relation avec le Père était tellement forte que cette relation d'amour était plus forte que la mort. La mort n'a pas pu avoir le dessus sur cette relation. Mais vous aussi, Jésus dit, vous aussi, si vous m'aimez, si vous vous laissez prendre par ce courant de vie, votre relation avec Dieu, elle sera plus forte que la mort qui un jour vous atteindra. Ces relations avec les personnes que vous aimez, elles seront plus fortes que le mystère de la mort. C'est pour cela que nous croyons qu'autour de toute Eucharistie, encore aujourd'hui, il n'y a pas seulement les vivants. Là, l'Eucharistie que nous allons célébrer, c'est l'Eucharistie du ressuscité. Il est vivant dans sa relation au Père. Mais ce n'est pas seulement avec les vivants que nous voyons, c'est avec ceux qui sont passés par la mort. Les membres de nos familles qui sont morts dans le Christ, ils seront autour de nous aujourd'hui. Parce que la mort n'a pas le dessus sur les relations d'amour. Mais ça, vous voyez, Israël se disait, est-ce possible? On parlait de Sheol, on ne sait pas bien. Mais après la résurrection de Jésus, comme disent les disciples, on ne peut plus en douter. La vie s'est manifestée, il s'est manifesté, il nous a donné rendez-vous, il s'est fait toucher, il était là, il est vivant et il nous entraîne dans un mystère de vie. Auparavant, on pouvait douter, on pouvait se dire, est-ce qu'on va vers la mort ou vers la vie ? Après notre mort, on va vers où ? On pouvait se poser la question à juste titre. Mais désormais, depuis la résurrection de Jésus et tous les signes qu'il a donnés et tous les repas d'amitié qu'il a engagés après sa résurrection, eh bien désormais, nous ne pouvons faire qu'une option. Désormais, le sens de notre vie d'ici, c'est un alpha, un oméga qui va se poursuivre dans la vie éternelle. C'est ça le mystère de la résurrection. Ce n'est pas l'image de Pinal avec un petit héros Zorro qui sort de sa tombe et qui dit « Ouh, drapeau blanc !» Non, mais ce serait idiot, hein, simplement. Hein. Disons-le clairement, non, ce n'est pas ça. Ce serait une réanimation. C'est ce qui est arrivé à Lazare, c'était un signe, c'était bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une réanimation, celle de Jésus. Non. C'est celui qui portait la vie depuis avant que la création ne soit, qui s'est manifesté au cours de sa vie, qui se manifeste, qui se communique à nous aujourd'hui à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements, et qui nous entraîne dans ce mystère de vie, tous ensemble pour une plénitude. Oh, c'est pas un simple petit Lazare qui se lève et puis qui va mourir après. Non, on l'aime bien Lazare, hein, surtout à Marseille. Mais ce serait pauvre, ce serait triste. La résurrection, c'est vraiment un courant électrique qui va nous emmener jusqu'à la plénitude de la vie, à travers notre baptême, à travers l'Eucharistie. Écoutez, quand on prend conscience de cela, je ne sais pas, c'est les cellules de notre corps vibrent, moi je les sens vibrer, elles vibrent, elles ont retrouvé la vie, et elles ont la conscience que désormais, la vie c'est pour toujours. On a quelques étapes dans la vie jusqu'à la mort, mais après, on est déjà dans ce courant de vie et on sera surpris, on ne sera pas déçu. Il y a de quoi se réjouir.